Et c'est parti pour notre pressing du jour avec Ombline Roche et Martin Lange. Et on commence comme chaque matin par la une de vos journaux avec l'escalade et la désolation à Gaza en première page de La Croix qui fait le bilan. Après 7 jours d'hostilité, Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement d'être responsables du conflit qui s'étend désormais à la Cisjordanie, s'inquiète le quotidien. L'impasse diplomatique, titre également le gratuit 20 minutes. Tandis qu'aujourd'hui en France se réjouit de la délivrance qui approche chez nous, réouverture des commerces, des terrasses, des cafés, J-2. Ça fait 7 mois que les rideaux étaient baissés, rappelle de son côté l'Ardennais. Il faudra gérer à cette rouverture entre prudence sanitaire et impatience d'un retour à la normale, résume enfin Libération, pour ne pas faire reflamber évidemment les courbes épidémiques. Et qui dit déconfinement, dit aussi peut-être préparation des vacances d'été. Et oui, elles arrivent. Et Ouest France se fait l'écho de la pression qui se renforce sur les compagnies aériennes à propos des billets non remboursés pour les voyageurs depuis un an. Ces compagnies sont accusées de faire l'autruche face aux demandes de remboursement. Mais ce ne sera peut-être plus le cas longtemps. La Commission européenne vient de lancer une enquête. La politique et Jean-Luc Mélenchon qui a lancé sa campagne présidentielle, titre Centre Presse dans l'Aveyron. Premier meeting en présentiel hier à Aubin pour le candidat déclaré de la France Insoumise. Sous la pluie, mais devant 800 personnes. Ça faisait plus d'un an qu'on n'avait pas vu ça. Enfin, les sports et ce cahier de 24 pages dans la montagne pour saluer la première montée en Ligue 1 du club de foot de Clermont-Ferrand, qui a validé son accès à l'élite ce week-end. L'élite où, on vient de le dire, Lille n'est pas encore assurée d'être champion. Match nul hier soir contre Saint-Etienne. Mais le LOSC garde la main, rappelle la Voix du Nord. Les Dogs devront impérativement gagner lors de la dernière journée face à Angers. Les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin, Ombline, il est question de vaccins et de virus, mais pas de celui qu'on imagine.
Mais non, les campagnes de vaccination qui ont lieu dans le monde entier contre le Covid-19 ne doivent pas faire oublier toutes les autres, et notamment contre le papillomavirus. Les infections et les cancers associés au papillomavirus sont en chute libre grâce à la vaccination.
C'est une bonne nouvelle.
Et oui, on en parle dans le Figaro ce matin. Transmis pendant les rapports sexuels, le papillomavirus peut entraîner différentes lésions, plus ou moins graves, des lésions bénignes, génitales, jusqu'au cancer du col de l'utérus. Il existe plusieurs types de papillomavirus et ce virus très contagieux touche aussi bien les hommes que les femmes. Alors chez les femmes, dans la majorité des cas, elles vont s'en débarrasser spontanément dans un délai de 2 à 3 ans. Mais dans certains cas, le virus persiste dans l'organisme et peut provoquer des lésions précancéreuse du col. La seule façon de dépister les lésions induites par le papillomavirus et de faire régulièrement chez son gynécologue un prélèvement cervico-utérin, ce qu'on appelle un frottis. Alors, dépister, oui, bien sûr, mais surtout vacciner. Dans les pays où les jeunes femmes sont vaccinées, les résultats sont extrêmement parlants. Au Danemark, toutes les jeunes filles sont vaccinées depuis 2008. Et on observe une diminution de 95% des infections.
Là, ça fonctionne, on est certain.
Exactement. Même constat en Écosse, en Australie, aux Pays-Bas, en Argentine, au Rwanda et au Bhoutan où ont été lancées des campagnes vaccinales. Aux États-Unis, le taux d'infection est en baisse également. Et depuis 2011, la vaccination est étendue aux garçons pour réduire encore plus la circulation des papillomavirus. Il faut savoir que les cancers oropharyngés, les cancers de la gorge, sont en forte progression dans les pays occidentaux en raison d'une sexualité orogénitale plus répandue. Et aux États-Unis, ils sont presque 2 fois plus fréquents que les cancers du col de l'utérus. Ils affectent majoritairement les hommes ayant des rapports homosexuels. Donc en France, le taux de vaccination des garçons, c'est pas génial, il est inférieur à 30%. C'est l'un des plus bas d'Europe. Vacciner les filles, les jeunes filles, les jeunes garçons, c'est important. La vaccination contre les papillomavirus est en train de porter ses fruits, c'est dans le Figaro.
Merci beaucoup Ombline Roche. Je vais moi aussi vous parler d'un phénomène qui touche plus particulièrement les femmes depuis la nuit des temps. Les clichés, eh oui, halte aux clichés sur la femme préhistorique. C'est le titre d'un article d'Aujourd'hui en France ce matin, consacré à un ouvrage qui bat en brèche de très nombreuses idées reçues et qui fait un carton en librairie. Alors c'est vrai que quand on pense au couple homme-femme préhistorique, l'image qui a tendance à nous venir en tête, c'est celle de femmes se faisant tirer les cheveux par des hommes brutaux revenant de la chasse, gourdin à la main. C'est en tout cas comme ça que commence le papier, c'est pas tout à fait faux. On s'imagine une répartition des rôles avec l'homme chasseur et la femme sagement assise dans sa grotte ou sortant pour cueillir quelques baies. Eh bien, détrompons-nous, ce sont des préjugés sexistes qui ne trouvent leur source nulle part, sauf dans la vision de la préhistoire écrite par les hommes à la fin du 19e siècle, nous dit aujourd'hui en France. Le livre dont il est question, L'homme préhistorique est aussi une femme, a été écrit justement par une préhistorienne respectée, Marilène Patou-Mathis, et elle nous montre, preuve scientifique à l'appui, que les tâches étaient bien plus partagées que ça chez nos ancêtres il y a 3 millions d'années. Par exemple, les nouvelles technologies ont permis de certifier que certains squelettes portant des traumatismes liés à des combats, des chutes, en somme des blessures de chasse, étaient bien des squelettes de femmes. Et oui, les femmes préhistoriques chassaient comme les hommes. Pour ce qui est de la cuisine, poursuite aujourd'hui en France, il a été observé que les hommes utilisaient leurs dents pour prémâcher la viande crue, préparer les plats. Donc, le domaine culinaire se révèle avoir été lui aussi, dès le paléolithique, une affaire beaucoup plus partagée qu'aujourd'hui. C'est finalement beaucoup au développement des analyses ADN qu'on doit ce redressement des torts, entre guillemets, puisqu'elles ont permis d'identifier avec certitude des squelettes féminins, de squelettes masculins. Et résultat, eh bien, ces dernières décennies, il a été prouvé, conclut aujourd'hui en France, que bien des hommes défunts au corps musclé, puissant et honoré par du mobilier funéraire étaient en fait des femmes. L'homme préhistorique est aussi une femme, c'est-à-dire dans Le Parisien ce matin.
Et qu'est-ce qui s'est passé, pardon hein, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment cette distinction a été opérée?
C'est une très bonne question dans laquelle on trouvera peut-être une réponse dans ce livre qui nous est donc conseillé par aujourd'hui en France. Martin Lange, on termine avec vous.
Et ce matin, je vous présente un styliste, Théo, il s'appelle Kerby Jean-Raymond, il est américain, et en juillet prochain, il deviendra le premier afro-américain à présenter ses créations lors de la Fashion Week à Paris. Alors, Kerby Jean-Raymond, c'est d'abord une success story à l'américaine, il a appris à coudre enfant avec sa mère, infirmière le jour et couturière la nuit. À 14 ans, il intègre un lycée spécialisé dans la mode de Manhattan. C'est à ce moment-là qu'il abandonne le basket, son autre passion, pour se consacrer exclusivement à la haute couture. En 2013, à peine 10 ans plus tard, il fonde sa marque Pyermos, qui fait un carton. Elle est aujourd'hui portée par les plus grandes stars américaines comme Usher ou encore Rihanna.
Mais Kerby Jean-Raymond, c'est aussi un artiste engagé, Martin.
Tout à fait, un grand défenseur de la cause afro-américaine qui utilise la mode pour valoriser la culture noire, une culture qu'il juge encore largement dénigrée de l'autre côté de l'Atlantique. Il est aussi très engagé dans le mouvement Black Lives Matter. Il s'est d'ailleurs fait connaître au-delà du petit milieu de la mode en diffusant une vidéo de violence policière lors de son défilé de la Fashion Week de New York cette fois. Un engagement qu'il a payé cher puisqu'il a perdu plusieurs investisseurs qui aurait préféré sur un artiste, disons, plus consensuel. Mais le New-Yorkais assume, c'est aussi pour ça que sa sélection pour la Fashion Week, la plus célèbre du monde, est un événement. Mais ne réduisez surtout pas Kerby Jean-Raymond à son combat contre le racisme. Le jeune couturier veut se servir de ses créations pour faire passer toutes sortes de messages politiques et sociétaux, ramener de la substance dans la mode, dit-il, et en faire un véritable art engagé. Kerby Jean-Raymond, ce couturier engagé qui va venir à la Fashion Week, c'est à lire sur le site de West France.
Merci beaucoup Martin. Et en parlant de couture, ne manquez pas notre invité inattendu à 6h20, le jeune Frenchy, le jeune Normand qui a conquis les podiums de Floride cette nuit pour le concours de Miss Univers. Merci Martin, merci Omblin. Je vous dis à tout à l'heure.